Quel horizon pour notre avenir?
J'ai dit émission en devenir.
C'était n'importe quoi, on a tout commencé en même temps.
Dans quelques années, vous allez devoir choisir un métier. Lequel feras-tu?
Plus tard, je voudrais être maçon.
Je ne sais pas.
Je ne sais pas ce que je vais faire.
DRH.
Mécanicien moto.
J'aimerais être mécanicien.
Plus tard, j'aimerais être coach sportif.
Moi, j'aimerais devenir photographe.
Orthophoniste. Ophtalmologiste.
Pompier.
Scénariste.
Médecin.
Marchand.
Gendarme.
Infirmier.
Policier.
Danseur.
Musicien. Jardinier.
Comédien.
Maçon.
Acteur.
Maîtresse.
Écolière. Non, c'est pas métier.
Bonjour, nous sommes sur Radio Valois Mulcien 93.7 pour l'émission Quel horizon pour notre avenir, animée par les 3e du collège Jean de la Fontaine. Au micro, Léane. Aujourd'hui, j'anime cette émission avec Emma.
Bonjour.
Théo.
Bonjour.
Et Adam.
Bonjour.
Et nous accueillons Madame Virginie Aurevège et Madame Isabelle Suer.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes orthophoniste. Pouvez-vous, en quelques mots, nous décrire votre métier?
Nous sommes des rééducateurs. Nous intervenons dans le domaine du langage et de la communication, ce qui ouvre à différents horizons, langage oral, langage écrit, mais aussi nous pouvons travailler dans le domaine du handicap.
Quand vous dites le domaine du handicap, vous parlez de quel handicap?
Alors, ça peut être les handicaps d'origine, je dirais. Par exemple, les enfants porteurs de trisomie, les enfants porteurs d'IMC, les enfants porteurs de troubles envahissants du développement, comme l'autisme. Ça peut être les handicaps acquis suite à des traumatismes crâniens ou suite à des accidents vasculaires cérébraux. Et puis après, ça peut être aussi dans le cadre de maladies invalidantes, comme des maladies neurodégénératives, comme des maladies de type Alzheimer ou de type Parkinson.
Qu'aimez-vous dans ce métier?
Le contact, la relation humaine, l'aide qu'on apporte aux personnes, c'est très riche. En plus, c'est valorisant parce qu'on leur apporte une aide dans un souci de vie, la communication étant quand même l'essentiel de l'être humain. C'est surtout ça.
Effectivement, le contact est très important. On est en relation duelle toujours. Donc la relation qu'on peut avoir avec un individu qu'on va aider, effectivement, c'est très valorisant pour nous. On est toujours dans une...
dans une démarche d'accompagnement.
Oui, ouais, voilà.
On travaille aussi un peu avec les familles, forcément, du coup, avec l'entourage.
Quelles compétences faut-il pour exercer ce métier?
Tout en premier, il faut quand même pouvoir articuler correctement, ça c'est essentiel. Ça c'est la compétence de base, si tu ne l'as pas, tu ne peux pas passer le concours déjà. Ensuite, ce qu'il faut surtout, c'est, je pense, de la patience, de l'écoute, de l'empathie. Il faut savoir se mettre à la place de la personne qu'on a en face. L'empathie, ça sert à aider l'autre. On ne se met pas à la place pour pleurer avec elle. On se met à sa place pour comprendre ce qui peut lui arriver et pour l'aider.
Regarde les images qui apparaissent et répète les mots correspondants. Bouche.
Bouche.
Bravo, Lucas.
Bague.
Bague.
Très bien.
Balai.
Balai.
Magnifique.
Balançoire.
Balançoire. Savoir se montrer disponible, écouter sans juger, écouter sans effectivement prendre la peine de l'autre, mais en essayant d'ajuster après l'aide en fonction de ce qu'on a entendu, en fonction de la plainte. Parce que la plainte n'est pas forcément non plus en fonction de ce qu'on voit. Par exemple, ça peut arriver qu'on voit des personnes avec un bégaiement massif qui ne les gêne absolument pas au quotidien. Donc il faut qu'on fasse la part aussi entre la demande et la gêne de l'entourage ou la gêne exprimée par la société. Quand je dis la société, c'est par exemple l'environnement scolaire pour les jeunes ou l'environnement familial pour les personnes adultes.
Qu'est-ce que l'empathie?
Alors l'empathie, c'est la possibilité de te mettre à la place de l'autre, d'essayer de ressentir ce qu'il ressent. Tu as un copain qui a perdu son chien, ou il va être triste. Tu ne vas pas réagir comme s'il te raconte qu'il a gagné une place pour aller voir la finale de Roland-Garros. Tu vas comprendre que cet état, là, il n'est pas bien, ton copain, parce qu'il a perdu son chien. Tu ne vas pas avoir la même réaction que s'il te raconte quelque chose de très rigolo. tu vois. Donc l'empathie, c'est ça, c'est essayer d'arriver à te mettre à la place de l'autre pour l'aider. Pas pour pleurer, encore une fois, si son chien est mort, son chien est mort, c'est lui qui est triste. Toi, t'es pas vraiment triste, son chien, tu le connais pas. Mais par contre, tu peux être triste, c'est ça, c'est comprendre sa tristesse, essayer de l'aider pour qu'il soit mieux.
Tout à l'heure, vous nous avez parlé de l'articulation pour le concours. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Alors en fait, c'est comme beaucoup d'études paramédicales. Pour entrer à l'école d'orthophonie, il y a un concours qui se passe en deux temps. Un concours, un examen écrit d'abord, et ensuite un examen oral où effectivement, pour une partie, on évalue la capacité de communication orale, donc sur la forme et sur le fond. C'est-à-dire, sur la forme, c'est effectivement, il y a par exemple des petites épreuves de diction, des petites phrases rigolotes à répéter pour voir si on est à l'aise, pour voir si on n'a pas de défaut d'articulation, de défaut de placement de langue. Parce que pour pouvoir le rééduquer après sur une personne, il faut déjà soi-même bien maîtriser tout ce qui est repère phonétique, repère de la langue, etc. Quoi.
Et la partie écrite du concours ?
Alors la partie écrite, après ça peut varier d'une école à l'autre, mais en général c'est vraiment la maîtrise de la langue écrite. Donc un examen d'orthographe, un examen de grammaire, et puis ensuite tout ce qui est partie connaissance de biologie. Là aussi ça varie selon les écoles.
Par rapport au concours, tu as vraiment intérêt à regarder les blogs d'étudiants, les blogs de sur
des
Facebook,
écoles.
Il y a des groupes, etc. L'école d'Amiens, par exemple, demande une épreuve d'inventivité. Il y a des écoles qui ne font des concours que sur des dictées qui sont costauds. Hein. À Paris, il n'y avait pas besoin de bio. La biologie, tu pouvais sortir du bac L et passer le concours d'orthophonie. Sur l'école de Lille, c'était hors de question.
Ouais.
C'était pas possible. Parce que dans le concours, il y avait des épreuves de SVT qui étaient...
Qui étaient du niveau du bac... Ouais. À l'époque, moi, par exemple, c'était le bac D, enfin du bac SS-SVT maintenant, quoi. Avec vraiment des questions de biologie assez précises, parce qu'on travaille après dans le domaine de la neurologie. Donc c'est pour avoir un minimum de connaissances pour pouvoir suivre les cours. Mais voilà, d'une école à l'autre, on n'est pas forcément obligé d'avoir... L'essentiel, c'est vraiment le niveau de français quand même, hein, de français, être à l'aise à l'oral.
18 centres de formation pour orthophonistes, donc c'est uniquement des écoles de l'État. Sur les 18 centres, tu peux vraiment regarder à chaque fois ce qui a été donné en concours. Ils font des annales pour les concours dans chaque école. Il n'y a pas uniformisation.
Ce métier a-t-il beaucoup évolué depuis que vous l'exercez ?
Oh oui, oui. Ah oui, si on ne fait pas de formation, enfin, je pense que ça c'est une vérité pour beaucoup de métiers, mais si on ne fait pas de formation au fur et à mesure, moi ça fait 23 ans que je travaille, ça n'a plus rien à voir ma pratique actuelle avec la façon dont j'ai appris à travailler. Même si c'est assez pointu la formation, même si on a fait de bons stages, il faut vraiment continuer à se former, on a de nouvelles compétences qui arrivent. Et puis aussi, pour nous, on travaille en libéral, donc on est confronté à des demandes très variées, donc il faut qu'on soit formé dans beaucoup de domaines.
Ça fait 28 ans que je travaille. Quand j'ai commencé, les images IRM, les scanners, tout ça, ça n'existait pas. Enfin, ça n'existait pas, ça commençait. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup d'évolutions, notamment en neurosciences, sur tout ce qui est anatomie du cerveau, fonctionnement du cerveau. Il y a 30 ans, on n'avait pas toutes ces données. Donc toutes ces données, maintenant, ont fait vraiment évoluer notre métier. On pouvait se dire qu'on faisait telle action, ça fonctionnait. Mais maintenant, on voit que ça fonctionne. On peut
l'objectiver par des examens précis.
Voilà. Il y a aussi énormément de maladies qu'on ne prenait pas en charge. Tout ce qui était justement les maladies de Parkinson, les démences Alzheimer, c'était des maladies, nous, on n'intervenait pas. Et on a découvert que l'orthophonie, alors malheureusement, ça ne guérit pas ces maladies-là, mais par contre, ça permet de conserver la communication. Et là, notre rôle est vraiment important.
Dans le domaine de la surdité aussi, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est aussi un gros pôle. Et c'est pareil, il y a beaucoup d'évolutions, ne serait-ce que dans les types d'appareillage. Il y a des choses qui ont vraiment beaucoup évolué. Et du coup, on peut vraiment aider les patients dans des prises en charge beaucoup plus fines.
Après, dans ce qui est rééducation du langage écrit, il y a 30 ans, ben, l'ordinateur portable n'existait pas. Donc, on n'avait pas non plus cet outil pour faire travailler les enfants qu'on a au cabinet. Maintenant, ça peut vraiment être quelque chose qui est un outil performant et qui nous aide pour les faire travailler. c'est aussi un outil qui est maintenant donné aux élèves qui sont dyslexiques, dysorthographiques au collège et au lycée pour les aider justement dans la prise de notes ou dans le rendu de devoirs. Il faut que nous, on puisse les aider à utiliser cet outil. On ne leur apprend pas le clavier. On l'utilise en séance pour pouvoir travailler l'aménagement pendant la scolarité. Donc ça, c'est important. C'est une super avancée pour les élèves, notamment.
Pour travailler son élocution, avec un crayon.
Panier, panneau, panier, piano, panier, piano, panier, panneau.
Est-ce que vous pouvez expliquer exactement ce que c'est la dysorthographie, la dyscalculie et la dyslexie ?
Alors, c'est très vaste. Hein. Un trouble développemental d'apprentissage. Alors, ce n'est pas un trouble d'apprentissage classique. Ce n'est pas faire des fautes d'orthographe parce que j'oublie les S ou parce que je ne connais pas bien mes conjugaisons. C'est vraiment une difficulté à acquérir le code. Donc, une difficulté à automatiser un petit peu ces apprentissages parce qu'on a une autre façon d'aborder, parce qu'on a une autre façon de travailler sur un plan cérébral, sur un plan intellectuel. Et du coup, on peut avoir, par exemple, la dysorthographie, la chose la plus bateau, entre guillemets, à laquelle on pense, souvent, ce sont les confusions de sons. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui lit parfaitement bien, mais qui n'a pas accès au sens, parce que ça paraît logique dans l'esprit des gens. Quand on lit, on comprend automatiquement. Mais au niveau cérébral, en fait, il y a deux étapes. Quand on est 10, ces étapes-là, on ne les maîtrise pas de façon concomitante. Et du coup, on n'arrive pas forcément à la compréhension et pas forcément en rapport avec la qualité de la lecture.
Ça donne après une grande lenteur, notamment pour écrire, pour lire, pour comprendre ce qu'on lit. C'est vraiment un trouble développemental, donc c'est pas parce qu'on n'a pas écouté à l'école, parce qu'on est bête, non, c'est vraiment
pas
ça.
C'est pas la faute de l'école non plus.
C'est pas la faute de l'école, c'est pas la faute de l'enfant, c'est pas la faute de la famille, c'est la faute à pas de chance, c'est un handicap qui est reconnu comme un handicap, comme la surdité, comme le fait de devoir mettre des lunettes. Donc il y a des aménagements qui sont demandés et que les élèves obtiennent, qui sont du temps en plus pour compenser justement, souvent au collège et au lycée, ce qui reste c'est ça, c'est une lenteur, donc on demande un aménagement pour que ces élèves-là puissent faire les contrôles, le brevet des collèges, le bac, dans les mêmes conditions que les autres. C'est comme si toi, tu as des lunettes, j'imagine que tu en as besoin pour lire, et si on te dit, le jour du brevet, t'enlèves tes lunettes. Voilà, l'aménagement, le tiers-temps supplémentaire qu'on essaye d'obtenir pour les élèves, dyslexiques, dysorthographiques, dyscalculiques, c'est vraiment la béquille qu'on donne comme on a des lunettes ou comme on a un appareil auditif.
Après, 10, c'est un trouble développemental qui a des répercussions sur les apprentissages. Dyslexie, c'est au niveau de la lecture. Dysorthographie, c'est au niveau de la transcription écrite. Dyscalculie, c'est par rapport à la numération, la logique. Dysphasie, c'est par rapport au langage oral. Mais en gros, derrière, il y a un petit peu le même type de difficulté. C'est pour ça que souvent, quand il y a eu des difficultés en langage oral, les enfants, c'est pas systématique, mais assez souvent, retrouvent des difficultés ensuite d'apprentissage du code du langage écrit.
Désormais, avec quels outils travaillez-vous ?
Du papier, des jeux.
Des jeux,
c'est un métier dans lequel on joue énormément. Après, du papier, des crayons, des stylos, l'ordinateur, des jeux. Et puis, notre tête, elle est vraiment importante parce qu'on est toujours en train de chercher la bonne question, l'élément qui va te faire avancer, la phrase dans laquelle il y a une difficulté et qu'il va falloir que tu trouves la difficulté. On sert beaucoup de notre tête.
Parce qu'un même jeu peut être utilisé de manière complètement différente selon la personne à qui on le propose et selon ce qu'on veut travailler derrière. L'essentiel, ce sont des supports et après, on les utilise de différentes façons selon ce qu'on attend, selon le but qu'on a par rapport à l'aide qu'on veut apporter à la personne en face de nous.
C'est vrai que ce sont des rééducations qui durent souvent longtemps. Tu imagines bien qu'avec un petit qui a 4, 5, 6 ans, enfin, on ne va pas lui faire lire des listes de mots à dire correctement. Il faut qu'il arrive à dire les mots correctement, d'accord. Mais après, il faut qu'il arrive à généraliser ce qu'on lui montre. Donc ça se passe sous forme de jeu à l'oral, à l'écrit. Mais il faut au maximum que ce soit ludique. Quand on travaille avec des enfants, on n'est surtout pas dans le soutien scolaire. Ça, c'est vrai que c'est important. On ne vient pas faire les devoirs chez l'orthophoniste. C'est vraiment pas ça. Il faut qu'on se démarque d'une certaine façon de l'école. On essaye parce qu'il y a quand même des choses qu'il faut faire de façon un peu moins rigolote, mais on essaye de faire ça sous forme ludique.
Il se fait tard.
Aigu.
Quelle belle journée.
Aigu.
Pourquoi pas?
Grave.
Où ça?
Grave.
Ah ah.
Grave.
Les jeux, ce sont des jeux de société ou des jeux que vous inventez?
Il y a des jeux, je dirais, typiquement orthophonie. Il y a des jeux que tout le monde peut avoir dans sa maison, mais on ne les utilise pas du tout de la même façon que la partie que tu pourrais faire à la maison. Nous, quand on fait un jeu, on a toujours une idée derrière la tête pour emmener l'enfant vers là où on veut qu'il aille. Le but pour l'enfant est d'arriver au bout, mais pour nous, le but, il n'est pas là, c'est de lui faire parler de certaines choses sur
oui,
le jeu.
On va avoir des jeux à thème, par exemple de phonèmes sur les jeux et les jeux pour un jeune enfant. Ou parfois, par exemple, pour travailler au niveau du langage écrit, de la lecture. Par exemple, moi j'ai en tête un jeu qui est inspiré du Cluedo, mais avec des consignes écrites, etc., qui a été fait par des orthophonistes, de manière à ce que ça soit ludique, ça soit interactif, où l'enfant se retrouve dans quelque chose qu'il connaît, et en même temps, on travaille d'une autre façon le support de la lecture. Et effectivement, les orthophonistes fabriquent beaucoup de matériel inspiré quelquefois de jeux de société qui existent ou quelquefois complètement nouveaux, de manière à ce que ça soit toujours en interaction. Le langage, c'est avant tout la communication et même le langage écrit au final. On écrit pour transmettre un message à l'autre. Donc on a toujours aussi ce souci-là de passer, de rééduquer. On travaille sur la communication, sur un message, qu'il soit verbal ou écrit. Par le support du jeu, on est vraiment dans ce travail-là, quoi, travail d'échange.
Tout à l'heure, vous avez parlé des stages. Quand les avez-vous fait, vous ? Vous étiez en école d'orthophonie ou après ?
En formation initiale, à l'école, on a des stages qui sont obligatoires de toute façon. Au début, on a même des stages dans des écoles ou dans des crèches pour voir les enfants, entre guillemets, sans difficulté, les enfants avec une évolution classique. Et ensuite, on a des stages dans les lieux où il y a des pratiques d'orthophonie, donc en libéral, en centre hospitalier, en centre de rééducation, en IME, en centre pour les enfants en handicap moteur ou intellectuel. En formation continue, quand on travaille, il y a des formations. Donc là, ce sont des formations plus théoriques, mais où il y a aussi parfois de la pratique pour continuer à apprendre.
Vous avez encore une fois parlé de libéral. Est-ce que vous avez choisi, vous, d'être en libéral ?
Oui, après, il y a la vie aussi qui fait que quelquefois ça se présente à ce moment-là. Moi, je sais qu'au début de ma carrière, j'avais pensé travailler en salarié. Et puis, pour des raisons privées, finalement, ça a été plus simple de travailler en libéral. Et puis après, selon les collègues qu'on rencontre, selon la pratique, l'avantage du libéral, pour ma part, je trouve, c'est qu'on a une patientèle très variée, justement. On peut travailler avec des enfants, avec des adultes dans différentes pathologies. Alors que quand on travaille en salarié, on est souvent, par exemple, à l'hôpital et on voit qu'un certain type de pathologie. Et c'est différent. Quelquefois, c'est aussi les aléas de la vie.
Mais c'est forcément un choix de te mettre en libéral. C'est forcément un choix parce que ça veut dire que tu es totalement autonome sur ton travail, sur tes horaires, mais aussi sur tous les à côté du libéral qu'il faut connaître et qui ne sont pas les à côté du travail en lui-même, mais tout ce qui est comptabilité, location de local, tout ça. Donc c'est forcément un choix. C'est plus facile administrativement d'être en salarié.
Et vous, quels sont vos horaires ?
C'est toi qui les décides quelque part. Alors c'est évident que c'est un métier où tu reçois du monde, donc si tu décides de travailler uniquement de midi à 2h, les gens ne peuvent pas venir, ça c'est sûr. Nous on a fait le choix, on a longtemps travaillé le samedi, maintenant on a fait le choix de ne plus travailler le samedi parce qu'on avait tous des familles. Tu peux vraiment travailler comme tu veux, tu peux travailler l'après-midi, tu peux travailler le matin, tu peux commencer à 8h, tu peux commencer à 11h. Après, il faut quand même être un minimum disponible pour que les gens puissent venir te voir.
Et puis, ce sont quand même des gens aussi qui sont fatigables. C'est vrai que, par exemple, c'est fréquent en libéral qu'on travaille jusqu'à 19h, 20h, mais on ne peut pas recevoir tous les patients à cette heure-là. Un enfant de 4 ans, le recevoir à 19h, c'est pas la peine. Il a sa journée d'école, on fera rien d'intéressant, rien de pertinent. De même qu'un adulte qui a eu un AVC, souvent il a beaucoup de soins dans la journée et il peut pas venir en fin d'après-midi, c'est déjà trop tard, trop lourd par rapport à tout ce qu'il y a dans son rythme de vie. À la fois on est assez libre et puis à la fois il faut qu'on soit effectivement accessible dans les horaires aux personnes qu'on reçoit.
Avez-vous toujours voulu exercer ce métier ?
Pour ma part, oui et non, je dirais, parce que j'imagine, comme vous, moi, je me suis posé beaucoup de questions. Quand j'ai eu mon bac, ça s'est précisé, mais j'avais en tête plusieurs pistes, on dira. Bon, comme c'est soumis à un concours, pour ma part, par exemple, je m'étais inscrite en fac de psycho, j'avais aussi pensé à la médecine, enfin... Par contre, c'est un métier auquel j'ai pensé très vite. Il est au carrefour, en fait, entre les sciences humaines, les sciences médicales. On travaille dans le relationnel et puis en même temps, on est dans le soin. Je trouvais que c'était un métier qui était assez complet par rapport au domaine qui m'intéressait.
Pour ma part, j'ai cherché après le bac. Pour moi, au début, l'orthophonie, je ne connaissais pas bien. Pour moi, c'était les enfants. Je voulais m'occuper d'enfants, mais pas en classe, parce que je n'avais pas envie d'avoir une classe entière. Et puis finalement, ça n'a rien à voir avec le métier d'enseignement. Mais voilà, mais c'était après le bac. Je ne sais pas si c'est un métier que tu veux faire, comme par exemple pompier, gendarme, dès que tu es petit. Non, je ne pense pas.
Conseillerez-vous ce métier aux jeunes ?
Oh oui.
Oui.
Pourquoi ?
C'est un métier passionnant.
Voilà, très enrichissant, très valorisant, où on apprend tout le temps.
On ne va pas dire qu'on n'est pas content quand on est en vacances. Ce n'est pas vrai. On est content quand on est en vacances. Mais à chaque retour de vacances, personnellement, je me dis, qu'est-ce que j'ai de la chance de faire ce métier-là ? Je vais travailler. Je suis contente d'aller travailler, quoi. Voilà. Et ça, c'est dans la vie, trouver quelque chose qui te rend heureux ou t'es bien quand tu vas travailler, bah c'est sacrément important. Oui, c'est un métier passionnant parce que tu rencontres plein de monde. Personnellement, je conseille.
Y a-t-il des contraintes familiales ?
Oui, mais à partir du moment où on travaille, il y a des contraintes familiales. C'est des aléas. À partir du moment où on va travailler, bah oui, si on a des enfants, parfois si on n'a pas dormi la nuit parce qu'on a un bébé, parce qu'on a eu un enfant malade, parce qu'on est soucieux, le matin c'est dur. Mais en même temps, voilà, notre boulot est tellement sympa qu'on oublie vite les contraintes. Dans la vie, y a toujours des contraintes, mais là, c'est pas quelque chose qui est négatif par rapport à notre travail.
Pour moi, le métier d'orthophoniste, c'est de l'apprentissage du langage.
Pour moi, le métier d'orthophoniste, c'est aider les personnes en difficulté.
Pour moi, le métier d'orthophoniste est un docteur des mots.
Pour moi, le métier d'orthophoniste, c'est aider à progresser dans sa vie à l'oral et à l'écrit.
Pour moi, le métier d'orthophoniste, c'est un métier où je m'épanouis.
Pour moi, le métier d'orthophoniste, c'est mon métier et je l'aime.
Le temps de cette émission est écoulé. Nous remercions Madame Virginie Aurevège et Madame Isabelle Suire de nous avoir consacré cette émission.
Merci à vous.
Cette émission est le fruit d'un partenariat entre Agir ABCD, le collège Jean de la Fontaine de Crépy-en-Valois et RVM.
Vous pouvez écouter toutes les interviews de l'audiothèque des compteurs de métiers sur notre antenne 93.7
ou en podcast
sur le site www.radio-valois-mulcien.fr.